Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent. Et c'est également aujourd'hui une très grande fête de la Très Sainte Vierge Marie, la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre et, comme vous le savez sans doute, le 12 décembre 1531, la Très Sainte Vierge Marie est apparue au Tepeyac, une des collines qui entourait Mexico à l'époque, la ville de Mexico, Mexique, à un Indien qui s'appelait Juan Diego. Et je voudrais un petit peu insister sur cette apparition qui est absolument fondamentale pour les trois Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et aussi pour le monde entier. Parce que tout ce qui touche à la Très Sainte Vierge Marie nous touche tous en tant que catholiques. Vous savez que Notre-Dame de Guadeloupe a été nommée par l'Église impératrice des Amériques. Impératrice donc de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Alors que l'apparition a lieu au Mexique seulement. Et tout le continent américain était placé sous la protection de Notre-Dame de Guadeloupe. Et c'est quelque chose de très important, parce qu'elle n'est pas simplement impératrice des Amériques, elle doit être aussi notre impératrice. La Très Sainte Vierge Marie est notre protectrice, elle est la Mère de Dieu, et en tant que Mère de Dieu, elle est notre Mère à nous tous. Cette apparition est assez peu connue ici. Elle me touche davantage peut-être que d'autres prêtres parce que j'ai exercé pendant un certain temps, dans mon jeune temps, des missions au Mexique. J'étais missionnaire au Mexique pendant presque 2 ans. Et donc j'ai bien connu ce pays, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un pays dans lequel Notre-Dame est extrêmement populaire dans tous les milieux, même dans les milieux maçonniques. C'est fait partie de ces choses un peu inexplicables. Le pays lui-même, le peuple est très catholique, mais le gouvernement est totalement anti-catholique. Tous les députés mexicains sont tous francs-maçons. Le peuple est catholique et garde la foi malgré les évêques mexicains qui, eux, ont complètement perdu la foi. Certes, malheureusement, il faut bien avouer que la foi catholique des Mexicains aujourd'hui est bien abîmée par l'Église de Vatican II, mais il reste encore quelque chose. Et ce qui me semble très important dans cette apparition, c'est une thèse que j'aime beaucoup, qui n'est pas de foi, mais qu'on a le droit d'enseigner, qui précise que la quantité de sang humain répandu dans les rues est inversement proportionnelle à la quantité de sang divin répandu sur les autels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus notre Seigneur Jésus-Christ descend sur l'autel, sur les autels catholiques, par le Saint-Sacrifice de la Messe, qui nous donne donc directement son corps, son sang, son âme et sa divinité, et moins le sang des enfants, le sang des innocents, le sang des hommes sera répandu dans les rues. Mais au contraire, moins le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est répandu sur les autels, plus le sang des hommes sera répandu dans les rues. Depuis 1969, la soi-disant nouvelle messe est apparue dans l'église de Vatican II. Et cette nouvelle messe a littéralement oblitéré la messe catholique traditionnelle. Et la conséquence peut être visible, le sang humain est répandu partout dans les rues. Rien qu'en France, il y a 250 000, au moins 250 000 infanticides officiellement par an en France. 250 000 enfants tués dans le sein de leur mère par avortement. On cache les choses sous des lettres. Il paraît qu'il ne faut plus parler d'avortement, Mais d'IVG, en fait, cette IVG, interruption volontaire de grossesse, n'est rien d'autre qu'un infanticide. Alors, il faut bien avouer une chose, nous avons les chefs que nous méritons et nous avons les temps que nous méritons. Nous vivons sans le bon Dieu, nous avons éliminé le bon Dieu de nos cités, nos sociétés. Évidemment, il faut maintenant payer les factures. On a beaucoup parlé dans les milieux révolutionnaires de la légende noire. Ce qu'on appelle, nous catholiques, la légende noire. Les modernes, les païens d'aujourd'hui, enseignent que l'Église catholique, par Hernán Cortés, a annihilé, a détruit complètement la belle religion des Aztèques. Religion toute belle, toute pure, toute sympathique, qui a été détruite littéralement par ces épouvantables catholiques. Alors, pour comprendre l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, il faut réaliser que Notre-Dame est apparue donc en 1531 à l'Indien Juan Diego, précisément pour sauver le peuple mexicain de la dictature dans laquelle les prêtres aztèques tenaient le peuple mexicain. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Les Indiens étaient maintenus en esclavage par les prêtres aztèques. Je peux vous donner quelques exemples qui sont des exemples historiques. En 1487, par exemple, près de Mexico, lors de l'inauguration de la pyramide de Teotitlan, ou Teotihuacan, il y a eu 80 000 victimes humaines. 80 000 victimes humaines qui étaient alignées en rang d'oignon sur quatre files, sur les quatre coins de la pyramide, et la file faisait 10 km de long. Il y avait plusieurs prêtres en haut de la pyramide qui immolaient avec un couteau d'obsidienne les victimes qui étaient que des jeunes, des Mexicains, des Aztèques, des jeunes locaux qui étaient immolés quand ils n'avaient pas assez de prisonniers. Ils immolaient leurs propres enfants. Les jeunes qui étaient immolés, on ouvrait donc les prêtres de cette infâme religion, ouvraient le thorax de ces personnes qui étaient tenues sur des pierres bombées, on les mettait sur le dos, sur ces pierres, quatre prêtres tenaient les deux mains et les deux jambes, je m'excuse des détails, mais c'est pour nous aider à comprendre. Le cœur était arraché de la personne qui était vivante, dévoré à moitié par les prêtres, et ensuite offert à leur faux dieu. Les Aztèques adoraient en effet, comme dieu principal, le dieu soleil. Et ils pensaient qu'il fallait que le dieu soleil soit abreuvé avec du sang pur, donc d'enfants non pécheurs, c'est-à-dire de jeunes hommes, de jeunes femmes. Et pour être sûr d'avoir suffisamment de sang pour abreuver leur dieu, les Aztèques organisaient des guerres constamment pour avoir des prisonniers. C'était ces prisonniers qui étaient immolés tout simplement. Et quand il n'y avait pas assez de prisonniers, on prenait les gens du coin. Donc imaginez, il y avait un mort toutes les 15 secondes. Je peux vous donner un autre exemple qui m'a beaucoup frappé pendant mes périodes au Mexique. J'ai déjà donné ces exemples dans d'autres conférences, donc je m'excuse de répéter ces exemples, mais vu la date d'aujourd'hui, 12 décembre 2021, c'est la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, je voudrais expliquer ces choses-là. On ne peut pas comprendre l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe sans comprendre l'histoire qui est derrière. Dans le sud du Mexique, il y a une pyramide connue qui s'appelle Monte Albán. Et dans ces pyramides, dans ces restes très importants, avec des pierres colossales, il y a une espèce de terrain de football qui date de l'époque des Aztèques. Et à l'extrémité, aux deux extrémités de ce terrain rectangulaire, il y avait un cercle de pierres. Et le jeu consistait, pour les deux équipes, à faire passer une espèce de balle de latex à l'intérieur de cet anneau de pierre. et l'équipe qui perdait était immolée. Odieux ! Ça mettait de l'ambiance dans la partie, c'est moi qui vous le dis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1509, donc n'oubliez pas que nous sommes au 15e, début du 16e siècle, à l'époque où en France, on construit les cathédrales. À l'époque, à cette même époque, dans ces pays sous le domaine du démon, sous l'influence du démon, des milliers d'esclaves étaient immolés vivants. Mais en 1509, une païenne, qui était la sœur de l'empereur Montezuma, a une vision. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Bien qu'elle fût païenne, elle eut une vision. Un ange lui est apparu sur la plage et lui a indiqué que dans un temps assez proche allaient arriver des gens qui viendraient de l'autre côté de la mer sur des bateaux avec une voile ornée d'une croix noire, chevauchant un animal inconnu au Mexique, à savoir le cheval, et ayant, signe très important pour les Indiens, de la barbe, parce que les Indiens sont imberbes, n'ont pas de barbe. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et tous les Indiens du Mexique connaissaient cette vision. C'est une vision païenne. Cependant, parfois, le bon Dieu permet que des païens puissent bénéficier de certaines visions avec une partie de la vérité. Et les Indiens savaient tous, croyaient tous, dur comme fer, qu'il y allait avoir dans leur pays un changement d'air astronomique extrêmement important, à une date très précise, le 22 avril 1519. Or, le 22 avril 1519 correspond au jour de l'arrivée d'Hernán Cortés, envoyé d'Espagne pour apporter la foi catholique dans ces peuplades qui étaient décimées par les démons. Il vint avec 550 soldats et deux prêtres. Et comme il présentait les quatre signes qui avaient été annoncés par l'ange à la sœur de l'empereur Montezuma en 1509, donc il y avait des hommes barbus qui chevauchaient des chevaux, qui venaient de la mer avec des voiles marquées du signe de la croix noire, les 30 000 Indiens qui s'opposaient à ces 550 soldats ont littéralement baissé les bras, et ce qui a permis la victoire d'Hernán Cortés. Et lorsqu'Hernán Cortés a vu l'étendue des désastres, il est monté au sommet des pyramides. Il a vu ce qui se passait sur ces pyramides. Il a vu au pied de ces pyramides ces milliers de têtes découpées à partir des cadavres de ceux dont on avait arraché vivant le cœur pour les offrir à leur faux dieu. Il a vu toutes ces têtes qui étaient piquées sur des bâtons au pied des pyramides. Il a fait enterrer tous ces cadavres. Parce qu'ils n'étaient même pas enterrés. Ils étaient dévorés par les vautours. Et Hernán Cortés est à ce moment-là monté au sommet de la pyramide, à Teotihuacan, et là-haut, il a cassé la statue du serpent à plumes, un des multiples dieux de ces barbares, des Aztèques. Il l'a remplacé par une statue de Notre-Dame. La foi catholique a commencé à se répandre avec d'énormes difficultés. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il faut bien reconnaître ce qui est, beaucoup, même si Hernán Cortés était un très saint homme, beaucoup des soldats d'Hernán Cortés étaient beaucoup plus préoccupés par les histoires matérielles, faire fortune, que par la foi catholique. Beaucoup d'entre eux pratiquaient l'esclavage, hélas, et ont donné un tel mauvais exemple aux Indiens que ceux-ci n'avaient pas du tout envie de se convertir. Cependant, en 1524, un de ces Indiens, appelé Juan Diego, a été baptisé. C'est à cette même date, en 1524, que Rome envoie un évêque, l'évêque Zumárraga, pour être le premier évêque de Mexico. Cependant, il faut bien l'avouer, ce qui est, les quelques prêtres catholiques qui étaient là-bas, des franciscains, quelques dominicains, n'arrivaient pas à convertir les Aztèques, qui pensaient que cette religion catholique était la religion des Blancs. Et le 12 décembre 1531, la Très Sainte Vierge Marie s'en est mêlée en apparaissant à Juan Diego. Elle est apparue, ceci est très important, habillée, vêtue comme une Mexicaine, avec les signes distinctifs que tous les Mexicains connaissaient par cœur. Elle est donc apparue avec la robe traditionnelle des femmes mexicaines. Elle est apparue enceinte de son enfant, avec le signe spécial que toutes les Mexicaines de l'époque, et c'est toujours encore le cas dans le sud du Mexique, les Mexicaines qui étaient enceintes avaient un signe distinctif qu'elles cousaient sur leur poitrine, sur leur robe multicolore, qui manifestait publiquement qu'elles étaient enceintes et qui donc leur donnait des droits particuliers. La Très Sainte Vierge Marie apparaît donc avec le teint mat des Mexicains. Elle apparaît avec tous ces signes particulier des coutumes mexicaines. Elle apparaît donc en 1531 près de Mexico sur une colline qu'on appelle le Tepeyac. Elle apparaît à Juan Diego. Elle va lui dire: Je suis la mère de l'unique vrai Dieu et je voudrais qu'un temple fût construit ici en mon honneur. Donc elle va envoyer Juan Diego vers l'évêque Zumárraga pour que celui-ci accepte de construire un temple dédié à la Mère de Dieu. Est-il de vous dire que le pauvre Indien n'a pas réussi à remplir sa mission? Il est allé pourtant deux fois et n'a pas pu se faire entendre de l'évêque. L'évêque ne l'a pas cru. Il a pourtant expliqué qu'il avait vu la Très Sainte Vierge Marie, qu'elle demandait un temple à tel endroit. L'évêque ne l'a pas cru. En 1531, donc le 12 décembre, après plusieurs apparitions, la Très Sainte Vierge Marie va donner un signe pour l'évêque. Elle amène donc l'Indien, Juan Diego, au sommet du Tepeyac. Et là, alors que pourtant on est en plein hiver, en décembre, elle a fait pousser des roses. Les délicatesses de la Providence, c'était des roses espagnoles. Elle arrange les roses qu'elle coupe de ses mains délicates, elle les arrange dans la tilma de Juan Diego. La tilma, c'est une espèce de vêtement fait avec des feuilles d'agave, donc un vêtement très grossier qui ressemble un peu à un tapis de sisal, si vous voulez, sous lequel on peut absolument peindre aucune image. C'est pas dit qu'il n'y a aucun caractère lisse dans le tissu, un tissu extrêmement grossier, avec simplement un trou au milieu. C'est un manteau tout rond avec un trou au milieu. On passait la tête par le trou pour se protéger du froid. Et donc elle dispose les roses dans la tilma de Juan Diego, lui demande de refermer la tilma et de n'ouvrir la tilma que devant, en présence de l'évêque. Après maintes difficultés, Juan Diego a réussi à paraître, à aller jusqu'à l'évêque. Et devant l'évêque, il a ouvert ses bras et les roses sont tombées, et à ce moment-là est apparue cette image extraordinaire de la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadeloupe. Et là, évidemment, l'évêque a été tout de suite converti, il a compris que c'était une véritable apparition, et cette image a été d'abord placée dans la chapelle privée de l'évêque, et maintenant elle est dans une très grande basilique moderne. Très laide. Elle est magnifique, mais la basilique moderne ressemble à un hall de gare. Et les Mexicains vont tous prier devant cette image extraordinaire. Et à ce moment-là, les Mexicains de l'époque, les Aztèques de l'époque, ont reconnu: elle est notre reine. Et donc, ils sont tous convertis. Il y a eu 3 000 baptêmes par jour dans les premiers mois. 9 millions de baptêmes immédiatement. Vous savez que l'œil de la Très Sainte Vierge Marie sur le dessin, qui est un dessin qui n'est pas directement sur la feuille d'agave, parce que ça ne peut supporter sans après aucun dessin. C'est un peu comme une diapositive qui est projetée sur le dessin. L'œil se présente comme un œil vivant. C'est-à-dire que sur un œil vivant, lorsque vous regardez avec un appareil spécial l'intérieur de l'œil, on voit à l'intérieur d'un œil humain trois images. Une image sur la rétine et deux images inversées de chaque côté du cristallin. Eh bien, on voit ces mêmes images sur l'œil de la Très Sainte Vierge Marie qui se présentent comme un œil vivant. De plus, les étoiles qui sont disposées sur le vêtement de la Très Sainte Vierge Marie correspondent aux constellations de l'époque de 1531. Alors, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Ce n'est pas une conférence que je veux faire. Je veux simplement faire un sermon sur la fête de Notre-Dame de Guadeloupe pour augmenter en nous, Français, la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie. Vous voyez, la Très Sainte Vierge Marie s'en est mêlée alors que, humainement parlant, il n'y avait aucune chance. Donc il faut aujourd'hui, mes bien chers frères, prier la Très Sainte Vierge Marie, lui demander, elle aussi, d'intervenir. Elle est intervenue pour un peuple qui adorait un faux Dieu. Aujourd'hui, dans le monde moderne d'aujourd'hui, les gens modernes adorent tous des faux dieux. Ils adorent l'ordinateur, ils adorent l'argent, ils adorent le nombre, ils adorent la démocratie, ils adorent la République, ils adorent toutes ces horreurs. Eh bien, il faut se rappeler que Notre-Dame est notre reine. Notre reine, elle est notre impératrice. Et si nous avons suffisamment d'humilité, elle viendra aussi pour nous aider à conserver la foi, à trouver la foi si nous l'avons un peu perdue, à retrouver la foi pour qu'un jour nous puissions tous nous retrouver sous son manteau au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.